Inter, le 18-20.
Bonsoir. Brexit, c'est donc parti. 2 ans de négociations qui s'annoncent difficiles. Ici à Strasbourg, le Parlement européen fixera demain dans une résolution ses lignes rouges à ne pas franchir. Theresa May réclame un partenariat étroit, spécial avec le continent. Mais qu'en est-il de l'économie de l'Union européenne? Quel impact le Brexit peut-il avoir sur le marché unique? Les Européens seront-ils vraiment gagnants si des droits de douane étaient de nouveau instaurés des deux côtés de la Manche? Coup de projecteur également en matière de sécurité, de défense dans sa lettre de rupture. Theresa May conditionne le succès des négociations à la poursuite de la coopération en matière de sécurité. Certains n'ont pas hésité à dénoncer un chantage. Alors si on veut être un peu caricatural, ce serait une sorte de bourse sous la vie posée d'entrée de jeu par la Première ministre britannique. Question donc ce soir dans le téléphone sonne Europe. Eh bien, l'Europe pourra-t-elle vraiment se passer des Britanniques? Intervenez au 01 45 24 7000 jusqu'à 20h.
Le téléphone sonne Europe. Stéphane Le Neuf.
Et tout de suite au 01 45 24 7000, on retrouve Jean-Christophe qui nous appelle. Vous êtes dans le Nord, Jean-Christophe. Bonsoir, on vous écoute.
Bonsoir, merci d'abord pour vos émissions et l'intérêt qu'elles apportent pour tous les auditeurs. Ma question est très simple en fait, dans la mesure où on entend de plus en plus de commentateurs qui s'accordent à dire que le choix qui a été fait par les Britanniques risque d'être mauvais aussi bien pour l'Europe que pour le Royaume-Uni. Est-ce que la marche arrière est possible à terme du point de vue juridique, aussi bien du point de vue du Royaume-Uni que du point de vue européen? Est-ce qu'on peut envisager que le Royaume-Uni réintègre l'Europe à terme d'ici 2, 3, 4, 5 ans?
Merci Jean-Christophe, on prend le problème un petit peu à l'envers, mais c'est pas grave, c'est ça, c'est le direct, c'est Jean-Christophe qui nous appelle du Nord. Pour répondre à vos questions, Jean-Christophe, Sylvie Goulard, bonsoir.
Bonsoir.
Députée du groupe des démocrates et libéraux pour l'Europe. Jacob Van Wezijker, groupe de l'Alliance des socialistes et démocrates, bonsoir.
Bonsoir.
Et Arnaud Danjean, du groupe du Parti populaire européen, bonsoir Arnaud Danjean.
Bonsoir.
Alors, questions et réponses pour Jean-Christophe, avant qu'il soit parti, est-ce qu'ils peuvent revenir? Arnaud Danjean.
L'article 50 qui est invoqué, hein, qui sert de base au processus qui s'engage, ne prévoit pas de procédure en cours d'activation. C'est-à-dire qu'une fois qu'il est activé, il est activé jusqu'au bout. Il n'est pas prévu que les Britanniques disent au milieu du guet, on arrête et puis on revient en arrière. Donc d'un strict point de vue formel, il faudrait aller au bout du processus et éventuellement, à l'issue de ce processus, ils peuvent réappliquer. Ils peuvent redemander à refaire partie de l'Union européenne en invoquant l'article 49. Ça, c'est d'un point de vue formel. Après, j'allais dire, vous savez, politiquement, tout est possible. Enfin, on vit dans un monde actuellement où on voit bien que tout est possible. Mais d'un strict point de vue formel, une fois que le processus est lancé, après, il y a les arrangements constitutionnels internes à la Grande-Bretagne. Si la Grande-Bretagne... Ça suppose un processus interne compliqué parce qu'il faut revenir sur un référendum qui est de faire. Voilà. Donc ça me paraît quand même assez peu probable qu'on ait quoi que ce soit qui revienne dessus à court terme.
Sylvie Goulard.
Rien n'est prévu, comme l'a dit Arnaud Danjean, mais rien n'est exclu non plus. Et je crois que politiquement, l'intérêt serait tel pour tout le monde, y compris probablement pour les Britanniques eux-mêmes, et que pour éviter une crise majeure, on trouverait peut-être une solution. Je tiens toutefois à dire, nous répondons avec joie à Jean-Christophe, parce que c'est sa question, mais personne ne joue à Bruxelles ou à Strasbourg avec l'idée de ne pas prendre au sérieux le référendum. Donc les négociations s'engagent avec, a priori, la volonté d'aboutir dans un esprit constructif au résultat que le gouvernement britannique demande et qui est la sortie de l'Union. Donc il n'y a pas de lézard, il n'y a pas de petits trucs organisés. Il y aurait, le cas échéant, à affronter une situation inédite.
Monsieur Van Wezijker.
Moi, je dirais, juridiquement, si vraiment la Grande-Bretagne décidera de peut-être revenir sur la question et décider à la fin de rester dans l'Union européenne, je suis sûr qu'on trouvera une solution. Mais politiquement, je pense que c'est très difficile à imaginer. Il y a eu le référendum et ce qui est encore plus important, aujourd'hui, la politique en Grande-Bretagne est dominée par la politique interne de la partie conservateur. C'est en partie à cause de la faiblesse de l'opposition. Donc, aujourd'hui, pour Theresa May, ce qui compte, c'est l'unité de la partie conservateur. La seule manière de préserver cette unité, c'est de prendre une stratégie qui mènera à une probabilité de 100% au Brexit. Et c'est aujourd'hui que la question de la modalité, c'est la question qu'est-ce qu'on négocie pour le Brexit, mais politiquement, pour la partie conservateur, pour le parti conservateur en Grande-Bretagne, je pense que ce sera impossible de revenir, malheureusement.
Alors, on a beaucoup parlé effectivement des conséquences pour les Britanniques, pour l'économie britannique, mais si, quand les Anglais seront partis, est-ce qu'on peut d'ores et déjà considérer que les Européens, les 27, seront perdants si les Britanniques s'en vont vraiment et si on n'arrive pas à négocier les termes d'une séparation qui peuvent être avantageux pour l'Europe? Sylvie Goulard.
Il y a deux scénarios.
Est-ce qu'on a beaucoup à perdre dans ce départ? Côté continental.
Nous avons sûrement à perdre parce que c'est un pays majeur sur le plan à la fois économique, financier, politique. Donc quand on croit que la prospérité vient de plus d'échanges, plus d'intégration, c'est une perte. Je tiens quand même à souligner que dans votre question, en fait, je crois que vous esquissez deux scénarios différents. Il y a un scénario dans lequel on arriverait à trouver un accord, bon an, mal an, et où on limiterait les dégâts. Ça serait à la fois un accord sur la sortie et puis sur une nouvelle relation à inventer, mais féconde, cas qu'il faut distinguer de la sortie sans accord qui pourrait arriver si au bout de 2 ans, on n'arrivait à rien. Et là, je crois franchement que les conséquences négatives, en tout cas l'instabilité, les incertitudes pour les entreprises et pour les citoyens, seraient plutôt dommageables pour tout le monde.
On retourne au standard, au 01 45 24 7000. Guy, vous nous appelez, on vous écoute. Bonsoir Guy.
Oui, bonsoir, merci pour votre très très bonne tenue de vos émissions. Le Brexit va devoir régler un gros problème qui, cette nuit, vous avez dû voir un embarquement avec 3 migrants ou 6 migrants. Est-ce que le Brexit peut solutionner le problème des accords du Touquet? Ce que Xavier Bertrand avait dit dans une de ses déclarations, qu'il était favorable à la renégociation, mais est-ce possible? Parce que c'est urgent de faire quelque chose. On ne peut pas laisser passer ces gens dans le chenal, c'est très dangereux. Ouais.
Merci Guy. Arnaud Dangean, les accords du Touquet, est-ce qu'ils peuvent être remis en question avec le Brexit?
Ce sont des accords, accords bilatéraux entre la France et le Royaume-Uni. Donc ça, ce sont surtout, j'allais dire, des échéances françaises qui vont en décider. Bien sûr, le Brexit, c'est le contexte général dans lequel ces négociations peuvent se conduire. Mais fondamentalement, c'est savoir où on place la frontière entre la France et le Royaume-Uni pour ce qui concerne ces questions délicate, sensible des migrants. Beaucoup de candidats à la présidentielle ont esquissé des positions en disant il faut renégocier à la faveur justement de ce Brexit, il faut aussi mettre ça sur la table, ça fait partie de ces
choses-là. Les Britanniques n'ont pas franchement envie de renégocier ces accords.
Non, évidemment, mais je pense que ça sera assez inévitable malgré tout et que la question va se poser, effectivement. Mais encore une fois, je pense que là, pour le coup, c'est plutôt un agenda franco-français qui va éventuellement déterminer la réouverture ou non de ce traité et de ces accords.
Je voulais qu'on aborde aussi un deuxième sujet, c'est le sujet de la défense. Toujours dans cette optique, est-ce que finalement on a intérêt à ce que les Britanniques quittent ou ne quittent pas l'Union européenne? Arnaud Dangean, est-ce qu'on a beaucoup à perdre quand les Anglais seront partis d'un point de vue de la défense?
D'ailleurs, dans l'absolu, la défense européenne, elle est tellement embryonnaire et faible en ce moment que ça change pas fondamentalement la donne. Alors après, il y a deux façons de considérer les choses. Vous avez ceux très optimistes qui disent, finalement, et de toute façon c'est inévitable, les Anglais vont sortir, et finalement les Anglais ont tellement bloqué, par idéologie surtout, ont tellement bloqué le processus de défense européenne que, une fois parti, ça permettra peut-être de relancer ce processus de défense européenne. Moi, je ne le crois pas vraiment, parce que je crois que les Anglais, comme je le dis souvent, étaient un peu l'arbre qui cachait la forêt. C'est-à-dire que beaucoup de pays n'avaient pas très envie de voir cette défense européenne se développer, mais ils savaient que les Anglais allaient dire non, donc eux disaient oui. Comme ça, ça leur donnait bonne conscience et ils apparaissaient pas comme les obstacles. Donc on verra. Et puis, il y a l'autre partie de la problématique, qui est de dire les Britanniques, c'est la puissance militaire majeure en Europe. C'est le pays sans doute le plus volontariste en matière de défense avec la France, et donc effectivement se priver de ces capacités-là, c'est quand même forcément un handicap. Pour autant, Je crois que c'est vraiment, s'il y a vraiment un domaine dans lequel le Brexit sera vécu in fine de façon très pragmatique, c'est sur ces questions de sécurité et de défense. Malgré ce qu'a dit Madame May, qui est à mon avis très maladroit de sa part, d'avoir voulu faire cette espèce de chantage,
en quelque sorte,
c'est vraiment ce qu'il fallait éviter. Ouais. Parce que c'est là, alors là, pour le coup, c'est au détriment des Britanniques eux-mêmes, et les Britanniques eux-mêmes ont été les premiers à réagir en disant il faut pas mettre ça sur la table de cette façon-là. Faire ce chantage à la sécurité, alors même qu'on sortait d'un attentat à Londres notamment, c'est ridicule. C'est totalement absurde. Donc, il y aura sans doute là, pour le coup, continuation, puisque la coopération britannique en matière de défense en Europe se fait déjà sur une base très pragmatique. Elle continuera de se faire sur une base très pragmatique. En gros, s'il y a des choses qui marchent en Europe, les Anglais voudront en être. Et s'il y a des choses qui ne marchent pas très bien, les Anglais se font plaisir de torpiller un peu plus.
On restera dans le bilatéral, notamment ce qu'ils ont toujours fait pour la défense, ou on a peut-être une chance de faire évoluer les choses.
Mais vous savez, sur les choses qui marchent, regardez, il y a une opération européenne qui a très bien marché, qui a été l'opération anti-piraterie au large de la Somalie, qui a été lancée en 2008. Comme par hasard, le QG de cette opération, il se trouve au nord de Londres et elle est pilotée par un amiral britannique. Donc quand les choses marchent et qu'ils sentent qu'il y a un intérêt commun, les Britanniques ne sont pas les derniers à investir dedans. Donc on peut espérer que ce pragmatisme prévale encore après le Brexit.
Monsieur Van Wezeyker.
Pour moi, une question clé dans ce contexte, c'est pas le Brexit, c'est la question quel est l'avenir de l'OTAN avec le président Trump. Et si finalement, et pour l'instant, on a l'impression la perspective des États-Unis sur l'Europe commence à devenir un peu plus raisonnable, je pense l'OTAN va offrir encore une garantie de sécurité suffisamment importante pour qu'il n'y ait pas la pression nécessaire pour que l'Europe se mettra vraiment en marche concernant la défense. Par contre, si Trump décide de peut-être pas détruire l'OTAN, mais de le faire moins crédible pour l'Europe, à ce moment-là, avec les Britanniques ou sans les Britanniques, les incitations seront là, on sera obligé de trouver une solution européenne. Donc pour moi, Trump est plus important que le Brexit dans ce contexte.
Sylvie Goulard.
Non, je voulais juste rajouter qu'il me semble que l'évolution de l'Allemagne, mais je parle sous le contrôle de Jacob aussi, doit nous inciter à regarder les choses de manière dynamique. Traditionnellement, Arnaud a tout à fait raison, le pays le plus engagé avec la France en matière militaire, c'était le Royaume-Uni. On observe du côté allemand, avec un livre blanc sur la défense et la volonté d'augmenter le budget, d'un élément nouveau. La deuxième chose qui, moi, me fait très peur, et effectivement, cette menace était maladroite, c'est qu'on peut difficilement imaginer des négociations qui tournent mal sur des questions financières, sur la manière dont on accueille les services financiers sur le territoire, sur le budget, enfin, et dans le même temps, une coopération en matière de défense et de services secrets qui resterait idéale, pragmatique, favorable. On a besoin de confiance pour travailler sur ces sujets. Ce sont des sujets très sensibles. Si d'un autre côté, on détériore les relations, j'ai personnellement une crainte. Encore une fois, je ne le souhaite pas, mais il faut prendre ça très au sérieux.
Non, c'est juste cette crainte. C'est pour ça que c'était d'autant plus maladroit de mettre cette question sur la table de cette façon-là de la part de la Première ministre britannique. Un petit bémol malgré tout, je pense qu'il y a le volet défense où c'est surtout des coopérations bilatérales qui font avancer les choses, donc on verra, il y a effectivement le cadre plus large de l'OTAN, comme ça a été rappelé, mais au-delà de la défense, ou à côté de la défense, il y a surtout l'aspect sécuritaire, et c'est ça l'aspect important, et qui peut être impacté par le Brexit malheureusement, qui est cet échange d'informations, informations policières,
Par exemple, Europol où les Britanniques sont les premiers contributeurs.
C'est eux qui l'ont quasiment façonné, Europol, avec un commissaire britannique à la tête, en tout cas un fonctionnaire
britannique
à la tête.
Clairement, est-ce qu'on peut se passer des Anglais dans Europol?
Non, on ne peut pas s'en passer, mais pour eux aussi, c'est un forum d'échange dont ils retirent des choses. Vous savez, les Anglais, ils n'investissent pas à fond perdu, donc s'ils ont investi dans Europol et qu'ils ont façonné une institution européenne,
c'est qu'il y a un retour d'investissement.
C'est que ça leur va aussi. Donc, j'espère que le pragmatisme. Le petit bémol sur la crispation qui peut y avoir, qui n'aurait pas forcément d'influence, je pense en particulier aux les services de renseignement et l'antiterrorisme. On a eu une tension diplomatique extrême avec les États-Unis, entre France et États-Unis, France-Allemagne d'un côté, États-Unis de l'autre, en 2003, au moment de la crise irakienne. Ça n'a jamais impacté de façon significative et décisive, en tout cas, le travail de fond et professionnel des agences de renseignement entre elles. Maintenant, on peut quand même espérer que la mutualisation aille un petit peu plus loin, et de ce point de vue-là, il serait préjudiciable que les Britanniques mettent ça dans la balance.
En même temps, il y a une très grosse tension entre les Britanniques et les Espagnols sur Gibraltar en ce moment.
Oui, il y a beaucoup de rhétorique aussi.
Sylvie Goulard ?
Non, je n'ai pas envie de commenter. C'est effectivement assez fâcheux. C'est pour ça que nous
c'est
sommes
quoi, c'est
au
de la posture. Aujourd'hui, on est dans un début de négociation.
Ouais,
donc
nous
on se met dans des postures.
Une négociation difficile. Il faut espérer que ce sont des postures et qu'on va retomber assez vite. J'ose pas dire dans ce cercle-là. Ça fait assez masculin, tout ça. On roule les mécaniques. C'est pas Madame May, là, pour le coup, sur Gibraltar, qui est allée le plus loin. Donc, je ne crois pas que ça soit de bon augure pour une négociation qui impacte la vie de millions de citoyens européens et qui a des incidences à la fois économiques et en matière de sécurité très importantes. Donc, il faudrait que tout le monde se calme, qu'on regarde ça avec moins d'émotion et beaucoup plus de finesse et aussi de volonté de continuer à coopérer correctement.
On retourne au standard 0145-24-7000. Thierry, vous nous appelez de Cagnes-sur-Mer. On vous écoute. Bonsoir.
Oui, bonsoir et merci pour vos émissions. Une autre question sur donc l'immigration, mais européenne cette fois. À ce stade de la procédure, a-t-on une idée du statut que pourraient avoir les Européens vivant en Grande-Bretagne et surtout les Britanniques vivant en Europe et particulièrement en France?
Merci Thierry. Je rappelle quelques chiffres. 3 millions de ressortissants des États de l'Union sont établis au Royaume-Uni et inversement, un peu plus d'1 million de Britanniques vivent dans un autre État membre. À ce stade de la négociation, Sylvie Goulard, pour l'instant, c'est une des priorités de Michel Barnier. Il a mis ça quand même en haut de la négociation, ce dont ne veulent pas entendre parler pour l'instant les Britanniques.
Ah non, eux-mêmes aussi placent la question des ressortissants assez haut dans leur liste, puisque Mme May avait même tenté de faire un accord séparé avec Mme Merkel, qui très justement lui a rappelé que c'était une discussion globale et qu'on ne commençait pas à ouvrir des chapitres les uns avant les autres. Ça sera également dans la résolution du Parlement demain. Je crois que les responsables ont bien à l'esprit que les personnes sont concernées, des familles, des gens qui ont payé des études à leurs enfants, des personnes qui travaillent dans l'autre pays ou qui ont pris leur retraite. D'un autre côté, il est clair, et je tiens à dire à cet auditeur, à Thierry, que nous ne pouvons pas non plus imaginer que tout continue exactement comme avant, alors même que le fondement de la présence de ces personnes, c'est la libre circulation des personnes, que les Britanniques veulent remettre en question. Il y a également la question de la réciprocité dans l'accès à la sécurité sociale, très concrètement, avec des coûts pour les pays d'accueil. Donc ça fera partie des négociations. On peut essayer de trouver les meilleures solutions possibles. Encore une fois, l'idée n'est pas, malgré tout, de dire que appartenir à l'Union ou pas, ça n'a pas d'importance et qu'on garde tous les droits sans avoir les devoirs et les financements.
J'ai envie de prolonger la question de Thierry. Quel point d'équilibre on peut trouver entre, d'un côté, Theresa May qui ne veut absolument plus de la libre circulation, c'est-à-dire en clair, on va remettre des visas pour faire concret. Et d'un autre côté, les 27 qui disent non, c'est un principe sur lequel on ne peut pas discuter. On est quand même très très loin là, il y a vraiment la mer entre les deux opinions.
Bon, à mon avis, il faut faire la distinction entre ceux qui ont fait confiance à l'Europe, qui ont construit leur vie en faisant confiance à l'Europe dans un autre pays européen, déjà, peut-être ça fait 10 ans, 15 ans, qui habitent quelque part, qui ont une famille, peut-être ils se sont mariés en Grande-Bretagne ou en France, en Allemagne. Et pour ceux, à mon avis, il faut trouver une solution rapide qui le rassure et où on devra viser à préserver leurs droits dans la mesure où c'est possible dans le cadre de Brexit. Et il y aura une autre négociation, c'est sur la question qu'est-ce qu'on va faire dans l'avenir. Et là, c'est beaucoup plus ouvert. Là, c'est un petit peu moins urgent aussi. Mais pour ceux qui ont fait confiance en Europe, il faut trouver une solution. Il faut trouver une solution rapide et il faut trouver une solution symétrique.
Arnaud Dangean ?
Oui, non, je partage ce qui vient d'être dit. Il y aura des conséquences. On ne peut pas faire comme si ça n'existait pas, ce Brexit en la matière. C'est la question la plus sensible. Et comme vient de le dire Jacob, je pense que la priorité d'éventuels accords dits transitoires, c'est effectivement les citoyens qui sont impactés directement, c'est-à-dire financièrement, dans leurs droits, dans leur statut, par cette question-là. Et puis après, il y aura un arrangement à plus long terme pour les nouvelles modalités de circulation entre nos deux ensembles. Et là, ça sera vraiment l'objet d'une négociation, mais j'allais dire presque d'une autre négociation. Il y a deux négociations en une. Il y a la négociation sur la solution transitoire et puis la négociation sur la solution définitive qui, elle, sera forcément moins fluide que les accords que nous avons actuellement, bien entendu, parce que comme le rappelait Sylvie, quand on n'est plus dedans, on n'est plus dedans. Et donc, il faut, je ne vais pas dire qu'il faut que ça ait un prix, mais enfin, ça ne peut pas être la même chose que quand on est dedans.
Sylvie Goulard, on peut s'attendre à un retour des visas pour aller en Angleterre ?
Je ne sais pas, à ce stade, c'est trop tôt. Ce que je voulais dire, c'est deux remarques rapides. La première, c'est que ce qui est très triste dans cette affaire, c'est que le gouvernement britannique a refusé aux ressortissants britanniques vivant en dehors du Royaume-Uni de participer au référendum l'année dernière. Donc ces personnes sont impactées par une décision à laquelle ils n'ont pas pu prendre part démocratiquement. Et la deuxième remarque, c'est j'invite tous les auditeurs qui nous écoutent de manière très calme et très posée à mesurer le fait que c'est facile de promettre la déconstruction et la destruction du cadre européen. Mais ce qu'on observe ensuite, c'est que vous avez énormément de situations individuelles, de familles, de personnes, d'entreprises qui en subissent les conséquences. À bon entendeur, salut pour ce qui se passe dans les élections présidentielles en France en ce moment. C'est facile avant une élection de simplifier les choses. Ensuite, ceux qui payent le prix de ces décisions peut-être un peu désinvoltes, ce sont des personnes dans leur vie, dans leurs amours, comme l'a dit Jacob, dans leur vie familiale, dans leur rapport à leur travail. Et c'est à ça qu'il faut penser avant de casser l'Europe.
On retourne au standard. Gérard, vous nous appelez, vous êtes en Vendée au 0145-24-7000. Bonsoir Gérard.
Bonsoir. Oui, je voulais simplement dire que les Anglais n'ont jamais été vraiment dans l'Europe. Ils ne sont pas dans Schengen, ils ne sont pas dans la zone euro. Thatcher a obtenu des tas de dérogations dans beaucoup de domaines. Ils n'ont pas tellement, je parle des dirigeants, hein, ils n'ont pas tellement évolué depuis Jeanne d'Arc. Et puis,
quand même.
pas tellement, les dirigeants. J'ai des voisins anglais qui sont pour le Brexit, mais qui se gardent bien de partir.
Bien, merci Gérard pour votre appel. Je voulais qu'on parle d'un point de vue strictement peut-être économique. Il y a une grosse négociation qui s'engage, mais notamment aussi sur la contribution britannique. Combien les Britanniques vont-ils payer pour pouvoir partir ? Parce qu'il va falloir qu'ils soldent en quelque sorte leurs engagements. Là, on a des chiffres qui sont quand même astronomiques. On parle de 60 milliards. Et puis d'un autre côté, on dit non, ça ne sera pas 60 milliards, ça sera finalement que 10 milliards. Où est-ce que se trouve aujourd'hui le curseur ? Est-ce qu'on sait où se trouve le curseur ?
Non, les travaux sont toujours en cours. Ça sera l'équipe de la commission avec Barnier de définir précisément ça. Ils sont en train de tout passer au scanner là pour voir les engagements, parce qu'il y a des engagements qui vont très très loin. On parlait, vous faites parce que c'est pas que des contributions sonnantes et trébuchantes. L'Europe, c'est aussi quand vous avez des fonds de garantie pour des emprunts, des fonds de garantie pour des mécanismes financiers. Vous avez une aide, une assistance financière à l'Ukraine. Bah, vous donnez pas forcément de l'argent comme ça. Vous contribuez aussi à des garanties. Bon, tout ça, il va falloir le chiffrer très précisément, et puis pour voir avec l'amortissement sur les années qui étaient prévues pour ça. Donc, et chaque mécanisme renvoie à des années différentes, des annuités différentes. Donc, c'est quelque chose le travail en lui-même de définition de ce solde est assez considérable. On sera sans doute quand même, effectivement, d'après les évaluations des différents organismes qui planchent là-dessus, on s'approche quand même des 50 milliards, oui, vraisemblablement.
50 milliards, 60 milliards,
c'est lui Goulard. Oui, une remarque peut-être pour nos auditeurs.
Moi, très sincèrement, je ne vois pas les Anglais faire un chèque de 60 milliards.
Attendez,
quand on voit la manière dont il y a 30 ans,
ça n'est pas une
I
somme.
Want my money back, si vous voulez.
Non, je crois que c'est pas, justement, Stéphane, c'est pas comme ça qu'il faut présenter les choses. D'abord, il faut bien dire que c'est probablement, ça a été le secret le mieux gardé du référendum l'année dernière. Ceux qui se sont lancés dans le référendum se sont totalement gardés de dire que le Royaume-Uni, étant parti à un ensemble de droits et d'obligations mutuelles, devrait, d'une manière ou d'une autre, apurer ses responsabilités. La deuxième chose, c'est que tout ceci dépendra énormément de la séquence. Si vous mettez ce chiffre sur la table comme ça, dans l'absolu, ça paraît énorme. Si c'est le moyen pour le Royaume-Uni, qui, je le rappelle, est quand même membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, et à ce titre garant du respect du droit international. Si c'est la manière pour le Royaume-Uni de partir la tête haute et de montrer à la face du monde que c'est un pays qui respecte ses engagements, ça peut être un très bon investissement dans l'avenir pour les Britanniques. Parce qu'il y a quand même un paradoxe dans tout ça. Est-ce que vous pensez un instant que d'autres pays vont avoir envie de passer des accords avec le Royaume-Uni si le Royaume-Uni claque la porte de l'Europe en n'honorant pas, comme l'a dit Arnaud, des engagements liés à sa présence dans le système, n'assure pas les retraites des fonctionnaires, et pas seulement des Britanniques, mais des fonctionnaires qui, pendant des années, depuis 1970, il y a eu des Français, des Italiens, des Allemands, plus tard des Polonais, qui ont travaillé pour que le Royaume-Uni puisse avoir des fonds. Et par exemple, le Royaume-Uni récupère des fonds de recherche de manière assez abondante, ou l'argent de la politique agricole commune. Donc il est assez normal que nous envisagions tout ça en plaçant chacun des acteurs devant ses responsabilités, non seulement immédiates et vis-à-vis de nous, mais vis-à-vis de l'ensemble du monde. Nous sommes des pays qui croyons dans le respect du droit international. Après, on va se chamailler sur le montant. Mais je crois que balayer du revers de la main l'idée qu'on ne part pas d'une entité comme l'Union européenne en claquant la porte et sans honorer les engagements qu'on y a pris, ça me paraît de bonne pratique. Et je crois qu'il est aussi important pour nous tous qui sommes députés de pays membres de défendre les intérêts des retraités de la Commission européenne française, dont les retraites devront être payées, de financer les fonds de garantie, d'être sûr que les cautions qui ont été données pour des prêts seront honorées, etc.
Monsieur Van Wensacker.
Tout d'abord, et Sylvie l'a déjà évoqué, ce sera un travail des agents comptables. Ce sera un travail de détail, très compliqué, parce qu'évidemment, une divorce n'était pas prévue. On n'a pas une traité prénuptial qui a tout réglé si jamais une divorce arriverait. Donc c'est compliqué.
Il y aura par consentement mutuel, donc ça va être compliqué.
Donc il y aura des différences en méthodologie. Ça peut mener à des variations de quelques milliards. Et c'est un travail sérieux et c'est un travail qu'il faut faire et c'est un travail où il faut rien oublier. Parce que ça pourrait après avoir des conséquences graves. Mais après, c'est clair, il y aura quand même un peu le bazar. Parce qu'il y aura des négociations qui sont menées au même temps que les négociations sur le montant exact. Là, on verra. Il faut trouver une bonne solution, il ne faut rien oublier. Mais une négociation, c'est une négociation. On ne peut pas prévoir aujourd'hui le montant exact.
Au standard, au 01 45 24 7000, Alain, vous nous appelez, vous êtes à Angoulême. On vous écoute, Alain, bonsoir.
Oui, bonsoir, bonsoir à tout le monde. Écoutez, moi, ma question, elle est simplissime et provocatrice. Quelle est la valeur ajoutée du Royaume-Uni dans l'ensemble de l'Europe, et en particulier par rapport à l'Europe continentale ?
Valeur ajoutée du Royaume-Uni, nous dit Alain. Est-ce qu'on peut calculer la valeur ajoutée ? Non, mais c'est une question sérieuse quand même, parce que on en revient au chèque, hein, on en revient à l'argent.
Moi, je vais essayer de répondre.
Quelle a été la valeur ajoutée depuis qu'ils ont intégré l'Union européenne ? La communauté économique et ensuite l'Union européenne.
Parce qu'une terminologie économique est utilisée, valeur ajoutée. Je vais commencer ma réponse avec l'observation que la valeur économique du marché unique dépend en partie de la taille de ce marché. Et la Grande-Bretagne, c'est quand même une bonne partie du marché unique. Et maintenant, la partie du marché unique qui appartient à la Grande-Bretagne, ça va se séparer du reste. Et ça aura un coût énorme pour la Grande-Bretagne. C'est en partie pour ça que le livre sterling a dévalué entre 10 et 15%. Mais évidemment, pour nous aussi, c'est un coût immédiat. Si on revient en arrière, avant, il y avait un marché unique qui fonctionnait avec la Grande-Bretagne et ça représentait une valeur ajoutée économique très importante pour la France, pour l'Allemagne, pour les autres pays. Donc il ne faut pas sous-estimer l'impact négatif qu'il y aura économiquement.
En même temps, Sylvie Goulard, l'impact négatif, depuis un an, on ne le voit pas, on le cherche.
Oui, mais le Brexit, commencé, si vous voulez. Donc, c'est pour ça qu'on ne voit rien.
Bon, la livre a baissé. Effectivement a chuté 10-15%.
Demandez à des Britanniques qui vivent en France ou en Espagne s'ils ne l'ont pas senti. C'est quelque chose de très significatif. Une dévaluation, c'est une perte d'argent. C'est de l'épargne qui vaut beaucoup moins. Mais j'avais envie de dire, je suis d'accord avec Jacob et je partage l'idée que c'est une perte. Simplement, je voudrais faire une petite boutade qui peut-être a aussi une valeur philosophique. Français et les Allemands, je le dis notamment à Jacob. C'est le pays derrière lequel on se cachait volontiers les uns et les autres. Parce que les Allemands allaient à Londres chercher des assurances contre les Français dont l'économie est trop dirigiste. Et ils espéraient, à juste titre d'ailleurs, avoir un appui extrêmement pro-business. Et nous, nous allions à Londres chercher des réassurances contre l'Europe allemande. Donc ce qu'on va perdre, la vraie valeur ajoutée du Royaume-Uni, c'est que nous nous cachions tous derrière. Et ce qui va être très significatif, c'est que nous serons au pied du mur le jour où le Brexit sera effectif. Et je tiens à dire à l'antenne que la raison pour laquelle on n'a pas senti les conséquences...
C'est que ça n'a pas démarré
c'est
concrètement.
C'est que depuis 9 mois, Madame May tourne autour du pot, parce que ce n'est pas si simple que ça. Et nous allons tous nous retrouver au pied du mur pour savoir ce que nous voulons faire. On l'a dit en matière de défense, en matière économique, Jacob a bien dit que c'était une perte. En matière aussi, par exemple, de changement climatique, d'accès à des marchés internationaux. La City de Londres était quand même aussi la principale place financière du monde. Elle se trouvait dans l'Union européenne, elle n'y sera plus.
Arnaud Dangeant.
Oui, sur le plan économique, le commerce est quand même intense avec les Britanniques. Et donc, vous avez des pays. Alors après, il faut ventiler pays par pays. Difficile de parler de l'Europe comme d'un bloc homogène en la matière, mais vous avez des pays, les pays limitrophes, Belgique, Pays-Bas, qui commercent beaucoup, par lequel passent les importations britanniques et les exportations britanniques. Donc là, il va y avoir des impacts quand même sévères sur toute cette industrie, ces flux marchands. Donc il y a une perte, ça c'est clair. Et puis aussi bien pour l'Europe continentale que pour les Anglais eux-mêmes. Et puis c'est vrai qu'il y a tout l'aspect influence. La Grande-Bretagne est le seul pays européen avec la France au sein du Conseil de sécurité de l'ONU, par exemple. La France va se retrouver toute seule aujourd'hui. Pays membre de l'Union européenne à la table du Conseil de sécurité. On a l'influence britannique dans des zones, on travaille sur les questions de sécurité beaucoup. Nous nous préoccupons beaucoup, nous, Français, et nous essayons d'amener l'Union européenne à s'en préoccuper, de certaines zones africaines. Mais en revanche, l'Afrique de l'Est, c'est une terre, entre guillemets, traditionnellement britannique en termes d'influence européenne. Et je peux vous dire que sans les Britanniques évoluer comme l'Union européenne le fait aujourd'hui, en Somalie ou dans ces zones-là, c'est plus compliqué. C'est pas des zones d'évolution, entre guillemets, naturelle pour beaucoup de pays de l'Union européenne et l'Union européenne en tant que telle. Donc on perd des relais d'influence également en Asie. En Asie du Sud-Est,
dans les pays Commonwealth aussi, on peut perdre des réseaux d'influence.
Oui, je pense que ça a un impact. Parce que même si par ailleurs, les Anglais, j'ai lu plusieurs articles britanniques qui parlait de l'overconfidence, une confiance excessive que les Anglais auraient en eux-mêmes et sur leur capacité d'influence. Le Commonwealth, c'est pas l'Empire britannique. Ce n'est plus l'Empire britannique.
Non, mais il y a une philosophie qui est en train de se développer aujourd'hui en Angleterre. C'est ce qu'on appelle l'anglosphère,
le Global Britain qui fait qu'on va compenser la perte de l'Europe par notre réseau d'influence dans le monde. Les autres pays qui se sont émancipés de l'Empire britannique, c'est pas forcément ce qu'ils en attendent. Ils se sont développés depuis, sans les Britanniques, dans le Commonwealth, certes, mais ça a pas forcément un impact. Notamment au niveau commercial.
Ils ne vont pas revenir, les Britanniques, les anciens colonisateurs.
Je pense surtout que ça ne permet pas de compenser l'intensité des liens qui s'étaient noués avec les autres partenaires européens.
Sylvie Goulard.
Oui, deux remarques. La première, c'est que pour avoir fait des débats à Londres exactement sur cette question-là, j'ai été très frappée que les Australiens, les Canadiens, les Indiens présents dans la salle expriment une très grande inquiétude. Ils n'ont pas envie de choisir entre le Royaume-Uni d'un côté ou l'Europe continentale de l'autre. Ils ont quand même des liens avec des pays comme l'Allemagne, avec des pays comme la Suède. Enfin, il y a des liens de commerce qui vont les obliger. Enfin, il n'est pas évident qu'ils fassent le choix uniquement du Royaume-Uni. Et la deuxième chose, l'Inde, par exemple, a déjà exigé, en contrepartie de la conclusion d'un accord commercial, la libre circulation des migrants, ou en tout cas l'accès de ces ressortissants au Royaume-Uni. Et donc le sujet que les Anglais ont essayé de chasser, ou sur lequel ils ont voulu reprendre contrôle, on voit qu'il revient par la fenêtre, parce qu'évidemment ces pays-là ne vont pas faire des accords commerciaux sans défendre leurs propres intérêts.
Au standard,
c'est très important, parce que toute l'alternative au Brexit qui est bâtie par Madame May, aujourd'hui c'est le fameux Global Britain, c'est-à-dire on va développer des relations, non seulement avec le Commonwealth, mais avec le reste du monde, qui permettront de compenser la perte de l'Europe. Je rapproche ça de ceux qui, en France, prônent pour un Frexit. Parce que la stratégie anglaise pour compenser les effets négatifs du Brexit, c'est de dire libre-échange, commerce international et ouverture au monde. Les forces politiques qui, en France, préconisent un Frexit, préconisent exactement l'inverse. Protectionnisme, pas de libre-échange.
Voilà. Ne propose rien, en fait.
C'est intéressant, ce paradoxe, de voir que ceux qui soutiennent le Brexit ici, les Français, par exemple, qui soutiennent le Brexit ici, dans cette Assemblée, sont ceux qui, en même temps, sont contre le libre-échange et tout ça, exactement ce que promeuvent les Britanniques à travers le Brexit. Enfin bon, voilà.
On retourne au standard. Jean-Jacques, vous êtes à Cherbourg, on vous écoute. Bonsoir, Jean-Jacques.
Oui, bonsoir, messieurs. Ma question était... Dans l'analyse de ce problème du Brexit, avez-vous tenu compte du fait que l'Écosse actuellement réclame un vote pour devenir éventuellement indépendant du United Kingdom, mais probablement demander le retour de l'Écosse sur l'Europe. Comment ça va se produire? Comment ça va se dérouler? Si ça se déroule, donc je ne sais pas si je vais avoir le temps.
Merci, Jean. Merci Jean-Jacques, on a bien compris le problème de l'Écosse.
Je dirais juste un mot là-dessus. J'ai beaucoup de sympathie pour nos amis écossais et la Old Alliance franco-écossaise, mais pardonnez-moi, mais le problème le plus sensible aujourd'hui, c'est pas l'Écosse.
C'est l'Irlande. Avec une nouvelle frontière.
Mais on peut répondre quand même à ce monsieur que de toute façon l'Europe reconnaît le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, donc on verra. Nous n'avons pas à encourager.
Sauf que les Écossais ne peuvent faire leur référendum que si les Anglais sont d'accord, donc c'est un peu compliqué.
Oui, mais ça c'est une question constitutionnelle interne propre au Royaume-Uni. Ce que je dis simplement, c'est que s'il apparaissait qu'un pays fasse sécession, il y aurait probablement des solutions. On a quand même par le passé déjà géré des successions d'États, notamment l'arrivée de l'ex-Allemagne de l'Est dans l'Allemagne. Donc il existe des règles pour faire ça. Mais je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit M. Dangean. Il est particulièrement important de se pencher sur le cas de l'Irlande, puisqu'il n'y a pas si longtemps, il y avait du terrorisme, il y avait un conflit armé. Et l'Irlande du Nord a voté, comme l'Écosse, pour le maintien dans l'Union européenne. Le fait de maintenir une frontière ouverte entre la République d'Irlande au sud, membre de l'Union européenne, et l'Ulster faisant partie du Royaume-Uni, quittant l'Union, c'est une question très compliquée.
En même temps, est-ce qu'on pourrait assister à une réunification de l'Irlande à la suite du Brexit? C'est une question qui se pose aussi, non?
Un ministre britannique a déjà dit qu'il ne s'y opposerait pas, mais je pense qu'on n'en est pas là. Il est vrai que tous les Irlandais du Nord ont un passeport de la République d'Irlande et que, encore une fois, la volonté de garder la frontière ouverte est extrêmement forte.
Peut-être pour rajouter, je pense, un des erreurs qui était vraiment fait par May, c'était dans leur discours à Londres, ça fait quelques semaines maintenant, et là, tout simplement postuler qu'il sera impossible pour la Grande-Bretagne de rester dans une union de douane avec l'Europe, ce qui impliquera automatiquement qu'il y aura une frontière, un rétablissement d'une frontière entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande. Et d'avoir fait ça sans consultation avec l'Irlande du Nord, je viens d'un pays fédéral. Ça aurait été impossible en Allemagne de tout simplement ignorer les intérêts de toute une région, de n'en pas consulter. C'était vraiment une erreur grave. Et maintenant, il faut voir à quoi ça mène.
Mais on voit bien que les choses dégénèrent parce que dans le manifeste sur la base duquel M. Cameron avait été élu en 2015, prévoyait un référendum de sortie, mais jamais la sortie ni du marché intérieur, ni de l'union douanière. Donc Jacob a raison. On voit bien que petit à petit, c'est une solution de plus en plus radicale et de plus en plus difficile à mettre en œuvre.
Eh bien, on a 2 ans pour suivre ces négociations, puisque c'est prévu pour durer 2 ans. Mais là, je ne vous ai pas posé la question. On va être un petit peu pessimiste quand même. 2 ans, ça me paraît un peu court pour négocier ce Brexit. On verra le résultat. On arrive au terme de cette émission. Merci à Nathalie Poitvin, Mélissa Delman, à la réalisation Hélène Bizio et toute l'équipe technique ici à Strasbourg en direct du Parlement européen.